Alors, tout d'abord, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, d'autant que je suis venue déjà une première fois il y a 2 ans pour déjà vous présenter mes premières impressions au retour de la place Perpé, donc les impressions à chaud. Donc certains de vous, parmi vous, me connaissent déjà, mais qu'ils se rassurent, les choses ont beaucoup bougé en 2 ans, et donc ce soir, je vais vous parler plus précisément de ce qui m'a amené à écrire ce livre et de l'évolution de la situation jusqu'à aujourd'hui. Pour simple rappel, donc je suis allée place Perpé, j'ai décidé d'y aller le jour où effectivement j'ai vu ces images à la télé égyptienne qui m'ont fortement impressionnée, de personnes qui tournaient autour de la place Tahrir et qui venaient sur la place Tahrir, ces millions de personnes qui d'un coup s'étaient relevées pour demander la chute du système, la fin du système, pas seulement la fin de la dictature de Moubarak, mais la fin du système dictatorial dans son ensemble. Donc je me suis retrouvée place Tahrir au milieu de cette multitude et surtout au milieu du petit peuple qui était resté sur la place Tahrir. C'est ce que je raconte dans la première partie de mon livre que j'ai intitulé « La commune de Tahrir » parce que je voyais se mettre en place sous mes yeux une organisation populaire où le collectif reprenait du sens et était au centre vraiment de l'organisation de ce qui se passait sur la place. Donc d'abord un retour du collectif et un nouvel apprentissage aussi de l'échange et les premiers pas vers l'échange d'idées et vers la démocratie. Petit peuple, pourquoi? Parce qu'au moment où je suis allée, tout de suite après la chute de Moubarak, ceux qui avaient initié les premières manifestations, notamment du 25 janvier, je rappelle que le 25 janvier était une date de manifestation contre la violence policière depuis 2008 déjà, ceux qui avaient initié donc ces manifestations, je pense notamment au mouvement du 6 avril, et puis au mouvement progressiste comme Kifaya, par exemple, était allé discuter avec ce qui s'était mis en place une fois que Moubarak a été jeté en pâture à la foule par ses pairs militaires, le Conseil suprême des forces armées. Donc restait sur la place uniquement ce petit peuple qui était inorganisé, mais qui avait payé un tribut cher à ces journées chaudes de contestation, puisque ce sont souvent les enfants de ce peuple qui sont morts, qui étaient en première ligne. Donc, et j'étais convaincue à ce moment-là qu'il fallait que des gens comme moi soient présents pour témoigner de la suite, puisque je sais par expérience, je pratique le monde arabe depuis plus de 25 ans, que c'est une fois que les caméras se sont retirées, que la répression dure commence. Et effectivement, ça n'a pas manqué. Il y a eu d'abord des tentatives de vider la place, et ça, je le raconte dans le livre parce que c'est une chronique où je j'avance pas à pas avec les gens. Donc, première tentative d'évacuer la place le 9 mars 2011, et puis une seconde tentative où, effectivement, après l'irruption d'officiers libres et notamment d'un bataillon en provenance de Suède sur la place Tahrir, l'armée a décidé cette fois que c'en était fini de la contestation et a investi la place donc dans la nuit du 8 au 9 avril et cette fois l'armée a tiré sur la population. J'en suis personnellement témoin. Même si à 6 heures du matin la place était nette, nettoyée et rendue à la circulation. Il se trouve que après la répression du 9 mars, ils avaient commencé à vider les lieux, mais les gens revenaient tous les jours entre les horaires de couvre-feu, c'est-à-dire que l'occupation avait effectivement de la place, avait effectivement cessé de fait. Toutes les tentes avaient été brûlées, détruites, et il y a eu à peu près 300 manifestants d'arrêtés. Et à l'époque, vous aviez certainement entendu parler de toute cette personne qui avait été emmenée au musée, et puis torturée à la matraque électrique, et aussi ces filles, ces groupes de filles qui avaient subi des tests de virginité au musée. Amnesty International en a beaucoup parlé à l'époque. Mais le 8 avril, c'est un événement qui est resté non médiatisé, finalement, dont je consacre un chapitre dans le livre, puisque c'est pour moi le jour qui a fait trembler vraiment le Conseil suprême des forces armées qui avait repris directement les rênes du pays. Je m'explique. Le Conseil suprême des forces armées est formé du haut commandement militaire de l'armée égyptienne qui tient le pays, en fait, depuis le début. Il ne faut pas oublier que l'Égypte est un régime dictatorial qui s'est mis en place déjà à l'époque de Nasser. Et même si on a eu des présidents qui se sont succédés jusqu'à présent, Essadat et Moubarak étaient issus de l'armée. Ils étaient désignés comme présidents, en fait. Là, le Conseil suprême a pris donc directement les rênes du pays en jetant Moubarak en pâture à la vindicte populaire et a mis en place un programme pour donner l'illusion de la démocratie. Donc un programme électoral avec d'abord un semblant de réforme de la Constitution, et on a eu un premier référendum où il s'agissait uniquement d'amender la Constitution égyptienne pour mettre en place un processus électoral, commençant d'abord par des élections législatives et ensuite des élections présidentielles. Parallèlement, pendant que la contestation donc continuait sur la place Tahrir, mais aussi du fait de la répression à Tahrir, s'était dispersée dans d'autres endroits de la capitale, et notamment sur des lieux éminemment symboliques, donc les ministères, etc. Et ça c'est présent dans le livre aussi. J'ai suivi toutes ces manifestations catégorielles où les gens, d'un coup, se sont engouffrés dans ce couloir dont ils pensaient qu'ils seraient libres de s'exprimer, et ont commencé à demander la justice sociale catégorie par catégorie. Donc on a une série de manifestations, on a à la fois les lycéens, les étudiants, mais aussi les journalistes, mais aussi les travailleurs, mais aussi les avocats, les juges, etc. Donc Tahrir s'est démultiplié par la suite. Après la grosse répression de mars-avril, Tahrir s'est démultiplié dans d'autres endroits du Caire. Donc la contestation continuait, même si ici on n'en a pas beaucoup entendu parler à ce moment-là, puisque la version officielle, c'est que la révolution a duré 18 jours et qu'après, eh ben, le changement avait eu lieu et qu'un processus démocratique était soi-disant en cours. Or, pendant que ces manifestations se déroulaient, l'armée organisait, donc a sommé les Égyptiens de venir voter, et effectivement, voter pour qui ? Pour ceux qui avaient préalablement passé un accord avec le Conseil suprême des forces armées, et notamment les Frères musulmans, qui étaient en Égypte la première organisation d'opposition, et historiquement la première organisation d'opposition, la mieux organisée, hein, c'est un fait historique, hein, les Frères musulmans en Égypte existent depuis maintenant un siècle, dont les dirigeants avaient été sévèrement réprimés aussi et jetés au cachot sous tout le régime, donc il y avait une réelle légitimité. Effectivement, à ce moment-là, les Égyptiens, pensant que le changement arrivait et que ça, c'était la marque du changement qu'on permette aux Frères musulmans de se présenter, ont voté majoritairement Frères musulmans pour une simple raison, c'est qu'en Égypte, un des principaux fléaux, c'est la corruption, et qu'à ce moment-là, un parti d'inspiration religieuse apparaît plus propre que les autres pour lutter contre la corruption, et notamment aussi pour amener la justice sociale, puisque c'est un parti qui se fonde sur les valeurs de l'islam, Et comme j'allais dire, chacun le sait, j'imagine, la principale valeur de l'islam, c'est la justice. Donc il allait de soi que les Égyptiens allaient voter massivement pour les frères musulmans. Donc l'élection a eu lieu, mais la contestation a continué sur la place Tahrir, puisque les personnes politisées qui sont quand même au fait de la façon dont fonctionnent les frères musulmans savaient pertinemment que les frères musulmans, quelque part, en se présentant aux élections et en accédant au Parlement, avaient peut-être entré dans un endroit symbolique du pouvoir, mais finalement n'avaient pas le pouvoir, puisque la décision restait toujours entre les mains du Conseil suprême des forces armées. Donc après le 8 avril et la forte répression qui a suivi, on a eu la première contestation du maréchal Tantawi et directement du Haut Conseil suprême des forces armées, même si parallèlement, pour notamment les gouvernements occidentaux, l'Égypte rentrait dans la normalité puisqu'elle mettait en place un processus électoral. Donc, la répression a continué jusque effectivement fin 2011 a été de plus en plus dure et d'autant plus que les Égyptiens ont contesté le calendrier électoral. Ce qu'ils demandaient, c'est d'abord, ils s'entêtaient sur le fait qu'il fallait impérativement une nouvelle constitution, et deux, sur le fait qu'il fallait des élections présidentielles avant les élections législatives. Or, après les élections législatives, un parlement s'est installé, évidemment, majoritairement frères musulmans avec une petite présence symbolique de la gauche et des libéraux, à 37% à peu près, qui, eux, à ce moment-là, ont démissionné et ont laissé les mouvements islamistes seuls au Parlement. Ils ont démissionné pourquoi ? Parce qu'ils ont, une fois au sein du Parlement, très vite compris qu'ils n'avaient aucun poids, finalement, et que tant que le calendrier ne se déroulerait pas à l'endroit, ils participaient quelque part au maintien du système en place, hein, pour les plus éclairés. Le Conseil suprême des forces armées a quand même maintenu son calendrier et pour le maintenir a réprimé de plus en plus fortement la population. Et on arrive effectivement à la rentrée de septembre, octobre, décembre 2011, où l'armée n'hésite pas à tirer. Les snipers sortent dans la rue et ciblent cette fois d'une façon catégorielle les gens, les journalistes, mais pas seulement, les imams d'Al-Azhar qui venaient manifester, qui apportaient leur soutien moral à leur population. Il y a eu notamment un imam très connu qui a été tué, mais ciblé directement par un sniper, des jeunes, répression des jeunes, et des femmes, évidemment, puisque les femmes, durant tout ce processus auquel j'ai assisté, étaient très actives dans la logistique de l'organisation des manifestations. Et pour les dissuader de continuer à venir manifester, d'abord on les a arrêtés et on leur a fait subir les fameux tests de virginité, mais ensuite on a organisé des viols de femmes au sein de la place Tahrir. Ce sont des viols, je le dis bien, organisés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les militantes qui se trouvaient étaient encerclées, certaines, isolées, encerclées par des cercles concentriques de trois cercles concentriques, hein, d'un groupe qui les agressait directement, d'un second qui faisait semblant de venir les secourir, et d'un troisième qui évitait que des gens viennent vraiment les secourir. Donc ça s'appelle une organisation d'agression et une organisation de viol. C'est pas les Égyptiens qui spontanément, du jour au lendemain, je pense à toute cette jeunesse que j'ai côtoyée, du jour au lendemain, ont décidé de violer leur sœur. Non, pas du tout. Hein? C'est vraiment des viols téléguidés par la police politique. Des jeunes qu'on paye pour agresser. Hein? Ça, je tiens à le dire parce que cette question autour des viols m'a beaucoup été posée. Surtout par des personnes sensibles à la question féminine ou féministe, non, les Égyptiens ne sont pas plus agresseurs de femmes que les autres. même s'il y a un réel problème au sein de la société égyptienne, comme il y en a dans le monde arabe, du fait de certaines normes sociales qui sont maintenues. Ça, c'est clair. Donc, forte répression, et on arrive petit à petit, puisqu'ils tiennent à tout prix à mener jusqu'au bout leur calendrier électoral, et notamment pour satisfaire le Fonds monétaire international, qui est là en disant, allez, retour à la normalité, sinon vous n'aurez pas les 3 milliards de dollars que nous vous avons promis. Donc, pas de charge vers des élections présidentielles, et là on a un président qui est élu, qui s'appelle Mohamed Morsi, donc qui est issu de la confrérie des frères musulmans, et notamment du parti qu'ils ont constitué Liberté et Justice, mais qui lui, en accédant au pouvoir, s'est retrouvé effectivement carrément l'impossibilité d'exercer en tant que président, puisque simultanément, le Conseil suprême des forces armées, donc qui dirige par communiqué, par décret, a retiré toutes les prérogatives de pouvoir au président. Donc là, on a un président, effectivement, qui représente quand même les Égyptiens qui ont voté pour lui, puisque d'après les chiffres, on a eu à peu près 60% de gens qui ont voté pour Mohamed Morsi, mais en même temps, qui n'a pas la possibilité, en dehors de faire de la représentation, de prendre des décisions stratégiques. Donc le schéma actuellement, c'est quoi? C'est en Égypte, on a un Conseil suprême des forces armées qui tient toujours l'Égypte d'une pointe ferme, et puis une vitrine démocratique qui s'est organisée à travers des élections tout simplement. Donc c'est évident que les Égyptiens qui ont fait l'expérience de la place Tahrir, qui ont cru que le changement allait arriver, se sont sentis floués et donc ont continué la contestation durant toute l'année 2012, malgré l'élection de Mohamed Morsi, et on a eu ces grands mouvements, cette fois plus organisés, de villes qui entrent en dissidence, notamment toutes les villes de l'estuaire du Nil, je pense à Suez, je pense à Mahalla Kubra et à d'autres villes qui se sont mis vraiment en dissidence, et où là, cette fois, donc l'armée a décrété le couvre-feu et est allée directement exercer les pouvoirs de police pour calmer la foule. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'actuellement, en Égypte, on a finalement plus de détenus politiques dans les prisons qu'à l'époque de Moubarak. C'est un fait. On a une situation politique totalement bloquée. On a une situation économique qui va en s'aggravant. Et on a surtout un pays qui n'a plus de devise. Avec un taux de chômage qui crève les plafonds concernant les jeunes, des libertés donc qui à peine acquises, puisque les gens ont cru obtenir des libertés, tout de suite ont été retirées, puisqu'on a eu une cascade de procès. Je pense notamment à des journalistes, mais pas seulement à des journalistes, à des gens qui se sont exprimés sur Internet, qui se sont trouvés rapidement poursuivis pour diffamation, pour injure au président, etc., devant les tribunaux et jetés en prison. Parce que quand vous êtes accusé de diffamer en Égypte, on vous met en prison. C'est pas, on se contente pas de vous condamner à une amende. C'est des peines de prison pour l'exemple. Donc une situation bloquée et d'autant qui risque de s'aggraver d'autant plus qu'effectivement on a une en termes un coût de la vie qui est devenu extrêmement cher pour la grosse majorité des Égyptiens, dont il faut rappeler que l'Égypte a 80 millions d'habitants, d'après les derniers chiffres, peut-être plus, 20 millions au Caire, qu'une grosse partie, on a à peu près 65% d'analphabétisme, ce qui explique aussi le succès des partis populistes et conservateurs. Je pense aux frères musulmans, mais pas seulement à eux, au parti salafi, Al-Nour aussi, qui sont des partis en gros de droite conservatrice. Et que parallèlement à ça, on n'a aucune perspective d'ouverture quant à la jeunesse égyptienne et aux possibilités d'emploi de cette jeunesse égyptienne. Il n'y a pas de projet. Les seuls projet mis sur la table par l'Assemblée des Frères musulmans, par exemple, ça a été de dire on va mettre en place un système qui va nous permettre de faire rentrer des devises en Égypte. Donc, on va vendre selon, d'après eux, la réglementation islamique, mais ça, ça se discute, les parts de marché du canal de Suez ou de terre. Or, la terre qui est en train d'être rachetée actuellement en Égypte, c'est de la terre agricole qui est rachetée par ceux qui ont les moyens et qui sont pas loin, qui sont les gens originaires de pays du Golfe. Et que les parts de marché du canal de Suez, actuellement, elles ont été vendues à peu près à plus de la moitié à des investisseurs venant du Golfe, selon ce qu'ils appellent le modèle des soukouks. Donc là, je vous explique ce que c'est. C'est de l'investissement direct qui est soi-disant légal selon les canons du droit musulman et qui ne devrait pas permettre la spéculation. Or, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que dans la pratique, c'est le même type d'investissement que ce qu'on a en Europe et que c'est des investissements éminemment spéculatifs. Ce qui veut dire que, dans l'urgence, les frères musulmans pensent pouvoir calmer la population en faisant venir, donc à l'appel d'air, de l'argent frais de l'étranger. Mais qu'en fait, cette vision à court terme mène le pays tout droit complètement à l'échec. Il n'y a pas de perspective. Donc, de mon point de vue, et je finis mon livre par ça, je pense que l'Égypte et le peuple égyptien n'a pas le choix. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Place Tahrir, une révolution inachevée ». Ils n'ont pas d'autre choix que de poursuivre le processus qu'ils ont commencé le 25 janvier 2011. Pas de choix, même si ça va leur coûter cher, en termes de répression, en termes de mort, en termes de disparition, puisque malheureusement, je m'en inquiétais déjà quand je suis venue ici il y a 2 ans, des possibilités, c'est une forme de répression qui existe dans beaucoup de pays, donc des possibilités que petit à petit, des gens disparaissent, parce que quand des régimes pareils, des systèmes pareils veulent forcer une population à se taire, le moyen le plus efficace qu'ils ont trouvé, ça a été prouvé en Argentine dans les années 70, en Algérie dans les années 90, c'est de faire disparaître des gens par milliers. Voilà. Donc, je reviens d'Égypte avec ce double constat, à la fois que les années à venir vont être très difficiles pour le peuple égyptien et que la malédiction de l'Égypte, c'est à la fois d'avoir le canal de Suez et d'être à la frontière d'Israël, et que ça, c'est une sérieuse malédiction, mais qu'en même temps, cette multitude que j'ai vue dans la rue, cette multitude qui aspire à la justice sociale et à plus de liberté, va continuer à marcher. Elle s'est emparée et elle a appris, effectivement, elle a goûté à la liberté d'expression et à la possibilité de s'organiser différemment et en dehors de l'État. Et je suis convaincue que le temps aidant, la réflexion aidant et la formation aidant, les Égyptiens seront amenés tôt ou tard à s'émanciper. Voilà. Donc, j'espère que j'ai essayé de faire une intervention assez condensée pour vous donner les grandes lignes de façon à ce que vous puissiez rebondir dessus après un rapide commentaire des photos et préciser vos questions. Et à ce moment-là, j'entrerai dans les détails et dans les anecdotes. Je vais passer la parole à mon ami Karam Inallah, qui lui est un des fondateurs du syndicat des journalistes indépendants, qui est né, justement, c'est une expérience qui est née, qui est issue de la place Tahrir. Et ils ont, au mois de mars 2011, décidé, face à la répression qu'ils subissaient en tant que journalistes, puisqu'il n'y a pas de liberté de presse en Égypte et qu'il n'y en a toujours pas, et qu'il y a surtout le monopole du syndicat étatique, ils ont décidé à ce moment-là de créer leur propre syndicat. J'en parle aussi brièvement dans mon livre et il va vous expliquer comment. Je vous demanderai d'avoir un petit peu de patience avec lui parce qu'il ne s'exprime qu'en arabe et donc je ferai la traduction simultanée.
Salam alaykoum.
Bonsoir. Salam alaykoum.
Je m'appelle Karam.
Oui.
Je suis journaliste. J'ai parlé un peu français, afin que je parle arabe. في البداية أنا عايز يعني أشكر الدكتورة رفعة عطاف وعايز أدلي بشهادة حق خلي معك أقول شهادة في حقها
alors il est je suis très flattée parce qu'il dit j'aimerais remercier publiquement رفعة عطاف et témoigner de l'apport qu'elle a eu sur nous en Égypte.
الدكتورة رفعة عطاف ما كانتش صحفية. الكتاب ده كان ممكن في أي لحظة يعني يحمل خبر وفاتها.
Il disait pour nous le donc moi quoi. Il me voyait pas comme seulement une journaliste en fait parce que un livre de journaliste ça peut s'écrire très rapidement et c'est vrai qu'il y a des bouquins qui ont été écrits en une semaine. Je pense notamment à une cancer dont je dirai pas le nom.
فأنا طلعتها من الموت أكثر من مرة في قوة وشرسة النظام السابق في الأحداث يعني.
يعني
أنا مسكتك وطلعتك غصب من الأحداث وسط الأحداث قبل الموت يعني.
oui donc il voulait préciser qu'il a été une des personnes qui sont intervenues à des moments forts de la répression pour me sortir du feu.
Oui.
Parce que la réalité.
وبعدين فقدت الامل وخلاص خليت موت انا تعبت نفسي خلاص ما اقدرش اكمل يعني ما اقدرش احرص اكتر من كده.
وي
ماشي طيب بعد كده احنا قابلنا النقابه الصحفيه المستقله اي فكره في النظام السابق الديكتاتوري ده تبقى جريمه في حقهم اي فكره جديده في النظام السابق تبقى جريمه.
Alors on était confronté à quelque chose de très difficile c'est que toute idée nouvelle pour le régime de Moubarak, pour le système, les tenants du système, était criminelle pour eux.
قمنا بفعل النقابة المستقلة في الخفاء في الأول قبل ثورة 25 يناير. عملناها في السر الأول.
Donc on avait déjà prévu avant même l'avènement des premières manifestations de janvier 2011 de créer un syndicat, mais dans le secret.
وتعرضنا من خلالها إلى المضايقات اللي وصلت درجة الاعتقال وقضية قلب نظام الحكم.
Et à l'époque, on avait été notamment sévèrement réprimés et poursuivis. On avait même été arrêtés par les tenants de l'ancien régime.
فبدأنا بعد الثورة في إمكانية وصول فكرة تغيير النظام من ناحية الفكرة المستقلة.
Alors, et donc, au moment où nous sommes tous retrouvés place Tahrir, puisque tout le monde y était en tant qu'Égyptien finalement, pas qu'en tant que journaliste, on a décidé effectivement de mettre en place une structure qui permette un changement dans la profession.
الاستقلال لأن أنا لسه متعودش على الاستقلال ما عرفش الاستقلال بالفعل.
Et mon expérience du côté de Rabha m'a permis de comprendre ce qu'était cette valeur de la liberté. Nous on savait pas ce que c'était la liberté. Oui. Et en la voyant travailler, on a compris ce qu'était qu'être un journaliste libre.
فأن تكون مستقل في مجتمع غير مستقل ده صعب جدا.
Et que c'est très difficile d'être indépendant dans une société qui n'est pas indépendante et qui est dépendante de tout.
فكانت معنا الدكتورة تحضر كل اجتماعات النقابة من البداية.
Et donc on a eu la chance de la présence de Rabha dès le début de la création du syndicat et à toutes les assemblées du syndicat.
وترصد كل شيء بدقة.
Et qui effectivement à chaque fois intervenait sur des points précis.
ومن عنوان الكتاب نرى الفكرة الكتاب. الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي خرج بعد الثورة ويحمل نفس الفكر وما زال يحمل نفس العنوان ثورة لم تكتمل بعد.
pour eux ils disent que ce livre est important parce que c'est à la fois c'est non seulement un livre de témoignages, de chroniques, mais aussi de réflexions, et qui comporte aussi des idées qui ont été débattues, qui ont été discutées pendant tout ce processus de révolte, et qui continueront à être débattues après. Il y a une mise en
perspective.
Jusqu'à présent, notre syndicat n'est pas reconnu par les autorités. Et donc, on a très bien compris que le système était encore là, finalement. Et que la bureaucratie d'antan était toujours là, évidemment. Et qu'on a encore... Et qu'effectivement, tout ce mode de pensée dictatorial et oppressif allait continuer. Donc on est convaincu que le travail qu'on a entamé prendrait énormément de temps, il parle de 50 ans, j'espère que ça sera avant, et que ça prendra encore du temps pour que nous puissions réellement arriver à devenir des journalistes indépendants et libres. Et que le pire, c'est que c'est par notre sang que les gens qui sont actuellement, qui tiennent les rênes du pouvoir en Égypte, ont obtenu leur place.
نعم ففي ميدان التحرير شهد يعني يعتبر سيد ميادين العالم شهد ثوره سلميه بكل المقاييس وخسرنا فيها اعظم شباب مصر
qui dit c'est que nous qui avions donc qui avions manifesté d'une façon totalement pacifique effectivement on nous a répondu par la violence et que on compte beaucoup de morts parmi nous.
فقضيتي مع الاستقلال وخاصة في الصحافة والحكومة ظلت أكثر من 5 سنوات قبل النظام لمحاولة الاستقلال الفكرة.
que cette affaire justement par rapport au syndicat indépendant, c'est que non seulement elle a continué 5 ans, elle a commencé longtemps avant la chute de Moubarak, mais qu'elle est amenée à continuer. C'est un combat qui a amené à être très long.
فآخر زيارة للدكتورة كان شفتني وأنا نايم على البلاط.
Et donc quand on a vu cette journaliste venir à notre rencontre alors qu'on faisait une grève de la faim, ils ont occupé en fait l'agence principale égyptienne Mina, et qu'elle nous a vu complètement endormie par terre en train de faire une grève de la faim. Et qu'effectivement, pour qu'elle puisse nous rejoindre là-haut, il a fallu qu'elle emploie toutes les ruses possibles.
وبذلك أنا بشكر الثورة المصرية وشهدائنا اللي وصلوني بها بالفعل من البلاط إلى أن أجلس مع ناس مثقفة بالشكل ده.
On s'est rendu compte que ce qu'on faisait était important à ce moment-là dans son regard, et que le regard qu'elle avait sur nous, c'était pas seulement des gens qui occupaient un lieu pour leur propre intérêt, mais pour des idées.
وأكيد أكثر مرة نحن نستمر في الثورة لحين تحقيق الأهداف القصوى بتاعتنا.
Et donc nous maintenant on espère et on œuvrera dans ce sens pour qu'effectivement cette révolution soit achevée avec toutes les valeurs qu'elle a portées.
فعلا الفكرة لا تحتاج إلى مثقف بل تحتاج إلى محارب.
Et que pour que cette révolution soit achevée, elle n'a pas uniquement besoin de combattants, mais surtout d'idées, de réflexions, de faire avancer les idées.
فخرجنا من كنا 4 أفراد ووصلنا الآن إلى أكثر من 1200.
Et qu'à l'époque du moment où on a rendu visible le syndicat par cette grève de la faim, on était 4 à l'époque, et qu'on est arrivé aujourd'hui à plus de 4000 syndiqués.
وهذا العدد هو أمام دولة كاملة.
Et que tout s'est fait face effectivement à la force étatique.
فاحنا نمثل صداع دائم للدولة من هذا الاتجاه. نمثل صداع ملادي بمريض يعني الدولة حاسة ان احنا.
Et qu'effectivement nous on a l'impression effectivement que jusqu'à présent on apparaît toujours comme des gens malades auprès de l'État égyptien.
فيعني أتمنى ان احنا نقدر نوصل لنحقق أهدافنا.
Et donc on espère arriver à notre objectif.
وادعو لنظم الحفلة دولة لأن يكونوا حكومة في المصرية لمدة 6 شهور فقط لأنهم عملوا تنظيم رائع يعني أنا عايزهم عايزهم يكون ييجوا عندنا حكومة هي مصرية اللي نظم الحفل ده، هم ييجوا يبقى حكومة عندنا مدة 6 شهور فينظموا الحياة السياسية بنفس نظام المؤتمر ده.
Et qu'on espère que cet État égyptien auquel on a à faire face aura les mêmes capacités d'organisation que vous pour pouvoir mettre en place effectivement des choses qui tiennent sur la Turquie.
Merci. Merci.
Alors rapidement, je tenais à vous montrer donc ces photos et je tenais effectivement à faire un livre non seulement de récits mais aussi de visuels parce que, pour moi c'est un hommage à ces petites gens courageux qui un jour ont affronté avec leur corps hein, et avec des mains nues le système oppressif qui les fait souffrir. À ces gens que tout le monde va oublier, puisqu'on a commencé à nous raconter la légende de la révolution Facebook, la révolution, c'est ces gens-là, c'est ces anonymes, c'est ces petites gens dont parle très bien Naguib Mahfouz dans ses romans. Je pense que les romans de Naguib Mahfouz sont présents sur la table. Et puis, deuxièmement, parce que je suis convaincue que tout ça va être effacé des mémoires. C'est-à-dire qu'on va retenir uniquement l'histoire officielle et que tout ce à quoi j'ai assisté va disparaître, aussi bien à l'étranger que pour les Égyptiens. Moi, je m'en suis rendu compte auprès des Égyptiens qu'ils ont oublié, certains ont oublié tout ce qu'ils ont fait. Il y a ceux qui étaient au sein des événements, mais les autres qui assistaient ont oublié. Hein, donc il y a comme un zapping qui s'opère, d'autant plus que l'idée qui est tout le temps martelée, c'est bon d'accord, il y a eu la révolution, elle est finie, maintenant on construit l'Égypte. Mais on l'a construit sur quoi? Sur des questions qui sont encore en suspens et qui sont là.
Mais je pense aussi qu'il y a toutes les difficultés du quotidien qui rattrapent les gens.
Bien sûr.
La révolution maintenant, c'est il y a 2 ans, quoi.
Oui, alors là par exemple, c'est la manifestation des enseignants. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on est enseignant dans le primaire, on ne touche pas plus de 80 livres par mois, avec des classes complètement surchargées, hein, c'est 50 élèves, pas de moyens dans le public, et parallèlement se met en place un système d'école privée pour ceux qui en ont les moyens et très très cher, pour garantir l'avenir de son enfant. Donc ça veut dire qu'on a un pays complètement morcelé. J'ai vu une verticalité se mettre en place avec tout le petit peuple qui va rester en bas et qui va être écrasé justement par le coût de la vie, les difficultés à se nourrir, la surpopulation, les difficultés à trouver un logement, etc. Et à côté, une caste, une vraie caste de gens qui va vivre dans des endroits très protégés, très sécurisés, qui ont tous les moyens, effectivement, d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées. Ça va de la crèche, des écoles, alors j'ai halluciné, des écoles de langue pour monde de 3-4 ans, hein, d'accord ?
Avec
des cours particuliers, donc l'inflation des cours particuliers, et l'école, au final, l'université américaine, évidemment. Donc ça, c'est l'élite qui se prépare, l'élite qui va gérer l'Égypte après.
80 livres.
Qu'est-ce qui fait tourner les 80 livres, c'est rien du tout, c'est 10 euros.
Avec le système de santé qui est le même aussi.
C'est pareil. Donc quand on a 80 livres, quand on est enseignant et qu'on n'a qu'une miette pour vivre, qu'est-ce qu'on fait? On donne des cours privés. Donc on néglige l'enseignement du public pour j'allais dire stacanover, oui, les cours privés. Forcément. Et ça m'a fait très peur hein, de voir avec quelle rapidité tout ça s'était mis en place. En fait, cette verticalité de l'ultralibéralisme, puisque c'est rien d'autre. Pareil, c'est la manie des enseignantes, d'une enseignante. Et ce qui m'a intéressé, c'est de voir que les gens interpellaient les jeunes militaires en leur disant, mais pourquoi vous êtes là? Nous, on manifeste pacifiquement. Pourquoi êtes-vous là? Là, c'est pendant l'occupation de la place Tahrir, donc où on a eu l'occupation de gens tout à fait pacifiques et en famille. Là, c'est pareil, énormément de présence, des photos de martyrs. Hein. Tout le temps se rappelle, puisque jusqu'à présent, les familles se sont constituées en collectif et elles n'ont pas encore eu gain de cause. Ce qu'elle demande, c'est que les criminels soient jugés. Or, il faut savoir que jusqu'à présent, d'abord, ils ont été jugés, oui, mais acquittés. Là, c'est pareil. C'est quand je suis arrivée sur Tahrir, la première occupation. Là, c'est durant la manif des femmes du 8 mars. Hein. Là, où effectivement, le soir même, il y a eu une forte répression sur la place. Non, mais parmi les manifestantes, les leaders ont des foulards, hein, attention. Je pense qu'il y en a une qui est là, Narida Ben Khalfan, qui est la présidente du Centre pour la défense du droit des femmes. J'en ai une dans le bouquin, elles sont là, elles sont présentes avec une interview. Hein. C'est-à-dire qu'en Égypte, pour revenir à cette question du foulard, la question des femmes, c'est pas une affaire d'apparence. J'ai vu des militantes voilées, et puis j'ai vu des militantes dévoilées, et elles étaient côte à côte et elles défendaient les mêmes valeurs. Hein. Et puis après, tout dépend du degré de liberté qu'on peut avoir, ou de réflexion, ou d'adhésion par rapport au voile, puisque j'ai vu des femmes totalement émancipées, mais qui adhéraient au port du voile pour des raisons qui leur appartiennent et que je respecte foncièrement. Donc là, on a des mères, justement, de détenus qui manifestaient. Pareil, manifestation devant les tribunaux, où là, on a des jeunes qui sont détenus depuis très longtemps. C'est des jeunes, en fait, de droit commun, qui ont déjà fait leur peine, mais qu'on n'a toujours pas libéré. Et pendant ce temps, ils ont libéré des criminels. C'est-à-dire que les rues du Caire se sont remplies de jeunes voyous qu'on a utilisés après pour les agressions, effectivement, contre les militants, contre les femmes, etc. Bien sûr. Ça, c'est les mères, effectivement, de martyrs, hein, donc qui allaient de manifestation en manifestation avec la photo de leurs enfants, manifestation devant le syndicat officiel des journalistes, de jeunes, puisque pour eux, c'est un lieu qui, théoriquement, devait permettre de médiatiser leurs demandes. Or, moi, je me suis rendu compte que les pauvres, ils avaient beau manifester devant, les journalistes du syndicat étaient là-haut sur la terrasse, en train de boire leur thé, mais ils ne descendaient pas en bas voir ce qui se passait. Comme des fonctionnaires, en fait. Le problème du journalisme en Égypte, c'est ça. C'est la fonctionnalisation du métier. Là, voilà, les azrariens. Donc, ce sont des imams. Alors, la fonction d'imama en Égypte, elle est financée par le ministère des Waqf, donc des affaires religieuses. Et là, on a les imams qui manifestent contre la corruption qui règne au sein de leur ministère. La corruption, j'en parle là-dedans, qu'il y a au ministère, c'est par exemple les budgets donc publics, c'est un ministère qui sert à acheter des terrains sur lesquels on va faire de l'immobilier spéculatif, pendant qu'eux ne sont pas payés. Non, c'est terrible. Là, c'est pareil. Donc là, ça se passe devant l'immeuble de Maspero, qui est l'équivalent de la maison de la radio, où là, on a les familles, mais c'est les familles, et majoritairement des femmes et des enfants, de martyrs qui viennent manifester, et elles sont systématiquement entourées par un cordon militaire, comme si elles étaient éminemment dangereuses. Pareil, là, c'est les familles, encore les familles de martyrs, sur la place Tahrir. Là, c'est une grande manifestation qui demande le jugement de Moubarak. Le 8 avril, donc, l'apparition d'un bataillon de Suez avec des officiers libres. Et dans le livre, il y a l'interview de cet officier le lieutenant Yasser et on discute de la révolution des œillets. Et c'est intéressant parce qu'il me disait, mais nous, on ne veut pas le pouvoir. On veut que le pouvoir soit remis à des civils et qu'on ait un vrai processus démocratique. Il est en prison. Pareil, donc là, c'est cette manifestation du 8 avril où les officiers, on les voit, ils sont au milieu de la foule, là, sur la tribune, encadrés par les membres des comités populaires. Là, on a les manifs des salafis, hein, principalement, donc les salafis, le mouvement Nour est un mouvement islamiste, qui viennent manifester, eux, devant le ministère de la Défense nationale pour demander la libération des détenus politiques, de tous les détenus. Et malheureusement, quand ils ont organisé cette manifestation, les partis progressistes ne les ont pas accompagnés. Donc on avait des gens, des comités populaires qui venaient, mais les partis de gauche ne venaient pas. Je déplore ça. Pareil, donc toujours les manifestations qui demandent la destitution de Moubarak et la fin du régime, la même chose. Donc la jeunesse égyptienne, elle est là. Là, une occupation de la place Tahrir pendant l'été, avec toutes les revendications hein, sur des tableaux. Hein. Les Égyptiens sont très créatifs. Hein. On le voit, les photos sont très colorées avec des tas de banderoles, des dessins, un humour vraiment détonnant. Et puis cette liberté d'expression qui est là partout. Là, on a une manifestation qui s'est déroulée durant l'été, où d'un côté, on a le pôle dit progressiste. Moi, je ne veux pas séparer les peuples. Hein. Et puis, de l'autre côté, on a les islamistes qui manifestent. Mais tout ça se mélange sur la place Tahrir. Donc, on a différentes tribunes avec une liberté d'expression pour tout le monde. Et donc là, j'avais pris des manifs côté sympathisant mouvement d'inspiration religieuse. J'ai pris les photos aussi du côté de ceux qui nous ressemblent un peu plus, soi-disant. Donc les mouvements dits progressistes, en général de gauche et d'extrême gauche. Là, toujours cette demande effectivement de justice pour les morts. Pareil, donc là on voit que la place Tahrir s'est mise avec un camp. Cette demande par rapport à Moubarak et tous les caciques du régime de Moubarak. Là, les familles qui sont là, donc qui sont installées vraiment, mais livrées à elles-mêmes. Le problème, ça a été ça. Elles n'étaient pas encadrées par les militants ou uniquement par les comités populaires. Là, on a l'occupation, effectivement, qui se fait durant l'été. Là, il y a eu une grande manif qui s'est déroulée, et alors que le parti islamiste Frères musulmans avait demandé l'évacuation, hein, puisqu'ils étaient censés évacuer les lieux avant le début du ramadan, les gens sont restés, en fait. Donc toujours ces mêmes manifestations. Et là, on voit que tout le monde est très mélangé. Et là, par contre, c'est l'occupation. Voyant, après les répressions qui sont déroulées sur la place Tahrir, hein, durant octobre, donc ils essayent de disperser les gens et de façon très violente. Et on a eu des images de bagarres de rue très violentes, hein, où c'était l'armée, pas seulement la police qui était là et qui réprimait les jeunes. L'occupation, une partie de l'occupation s'est déplacée devant, directement devant le palais du gouvernement, jusqu'au 19 décembre 2011, à ce moment-là. Et là, effectivement, j'ai assisté à une deuxième forte répression de ces gens. Ils étaient une cinquantaine à occuper le lieu. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a une démesure. Et quand je constate cette démesure, je me dis oui, effectivement, ceux qui tiennent le régime ont peur. D'où la violence démesurée qui s'exerce. On peut continuer. Donc toujours devant le palais du gouvernement. Hein, donc tous les comités sont là. Hein, c'est des comités de jeunes, c'est des comités d'étudiants, c'est les parents qui viennent avec la photo de leurs enfants défunts. Là, c'est on a tous les cercueils symboliques justement de ceux qui sont morts durant les journées de janvier, février, mars, et ça a continué. Là, c'est un comité justement de jeunes qui demandent l'indépendance de l'Institut de théologie de l'Azhar pour que la religion ne soit pas justement instrumentalisée par l'État. Hein, c'est une bataille en ce moment très forte. Voilà, Naïda Ben Khamsan, qui fait partie justement du... qui est la présidente du Centre de défense des droits des femmes, c'est une avocate, et c'est une avocate qui porte le foulard. Et là, les femmes, effectivement, qu'on a vues, qui étaient toujours présentes pendant les manifestations, et même en première ligne, d'où la répression ciblée qui s'est abattue sur elles. Là, pareil, les officiers libres qui étaient là. Donc des jeunes, deux parmi eux sont morts hein, sur la place. Donc avec les photos. Des martyrs toujours. Les manifestations pour la libération des détenus. Donc là, les familles demandent une amnistie. Ces familles, ça se passe devant le ministère. Et là, pareil, l'occupation de la place Tahrir. Les dernières images d'occupation de la place Tahrir. Alors, on va laisser défiler. Et puis je pense qu'on va faire une petite pause.